2050, l'odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro la radio.
Bienvenue dans ce podcast, une nouvelle série sur Carbone Zéro, la radio 2050, l'odyssée de l'immobilier bas carbone depuis le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone et place au concret. On met en avant des projets puisque évidemment vous les connaissez, ces sujets, la performance énergétique, la question de la biodiversité, la diminution de l'empreinte carbone, l'intégration des énergies renouvelables, aussi le volet social qui est important. Et d'ailleurs on va en parler aussi à travers ce nouveau Zoom qu'on fait en particulier sur une réalisation qui permet de rendre concret l'immobilier bas carbone dont on parle. Et on va parler du village des athlètes en perspective des JO à Paris avec Florent Chahine-Nouraille. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc la directrice des grands projets Île-de-France chez ICAD Promotion, qui donc est à l'initiative et largement de ce village des athlètes dont on va parler. En même temps, félicitations aussi parce qu'il y a eu le palmarès aujourd'hui, les trophées BBCA et ICAD est parmi les maîtres d'ouvrage récompensé, donc ça veut dire un vrai engagement aussi en matière d'immobilier bas carbone, c'est important pour vous?
Effectivement, oui, merci.
Voilà, félicitations. Alors ce village des athlètes, immense village qui est destiné à accueillir quand même 3000 athlètes pour les JO, mais l'idée c'est qu'il y aura une vie après, évidemment on va parler de la structure de ce village, mais il y a une vie après.
Oui, tout à fait. Alors, les 3000 athlètes, c'est notre petite partie du village, notre petite contribution, j'ai envie de dire, parce que le village, dans sa globalité, fait 52 hectares.
Exactement, et plus de 15 000 athlètes, c'est
voilà,
ça.
Voilà, 15 000 athlètes à cheval sur trois communes, Saint-Ouen, Saint-Denis et l'Île-Saint-Denis. Et donc, nous, ICAD, en groupement avec la Caisse des dépôts et CDC Habitat, on a un petit bout. On a 52 000 m² de SDP et donc on accueillerait effectivement 3000 athlètes. Donc comme vous le disiez, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce village, il est pensé pour l'héritage, il est pensé pour le après, comment ce quartier va s'intégrer dans son territoire, comment les gens vont venir habiter, travailler et vivre. Et il se trouve qu'en 2024, on accueille des athlètes.
Alors, on en est où? Parce que concrètement, il va falloir livrer là. Les JO, si je ne m'abuse, c'est le 26 juillet 2024 officiellement.
26 juillet, cérémonie d'ouverture. Donc nous, pour notre part, on a bientôt fini. On doit avoir fini pour le 31 décembre 2023. Mm-hmm. Donc vous voyez, il nous reste moins de 3 mois. Mm-hmm. Pour une remise des clés au plus tard le 1er mars 2024, parce qu'on a 2 mois pour lever les réserves s'il y en avait. Et ensuite, du 1er mars au 1er novembre, c'est Paris 2024 qui gère et qui s'occupe des installations pour les athlètes. Et on reprend les bâtiments le 1er novembre pour les retransformer en logement ou en bureau en fonction de la destination finale.
Voilà, ça c'est la question de la réversibilité sur laquelle on viendra. Alors aussi techniquement, peut-être les points aussi à aborder, parce que quand on parle de ce village des athlètes et aussi de bas carbone, il y avait des défis à relever.
Énormément de défis. Énormément de défis, un cahier des charges extrêmement ambitieux imposé par la Solideo. La Solideo, c'est l'aménageur, la société de livraison des ouvrages olympiques qui avait lancé un concours en 2019. Donc nous, on a été lauréat du concours sur cette partie-là. Mmh. Et donc, dès le début, il y avait un cahier des charges extrêmement ambitieux sur les questions environnementales. Mmh. Donc, que ce soit sur le sujet du bilan carbone, sur le confort thermique, sur la biodiversité, voilà, tout un panel, j'ai envie de dire, d'ambitions très élevées. Et tout est réuni sur un même projet et tout ça à faire dans un temps record.
D'accord, alors peut-être décrire un peu concrètement, parce que là on est là pour donner du concret, comment on peut contribuer par exemple à la biodiversité à travers ces bâtiments?
Alors par exemple la biodiversité, c'est à travers notre plan masse, un cœur d'îlot paysager qu'on appelle forêt fraîche, très ambitieuse, avec un projet mis en place par un paysagiste avec plus de 200 arbres, de la pleine terre, recréer de la biodiversité également sur les terrasses, enfin dès qu'on a pu décrocher le label Biodiversity. Et puis nous, on est même allé encore plus loin sur ce sujet de la biodiversité parce qu'on a fait une innovation juridique à travers une obligation réelle environnementale, une ORE, qui permet de grever dans un temps très très long pour l'ensemble des propriétaires les exigences de biodiversité, des indicateurs de sauvegarde de la faune et de la flore sur le long terme.
Mmh. Donc ça, voilà, il y a beaucoup d'axes autour de la biodiversité. Pour tout ce qui est en lui-même, on va dire, du budget carbone et de la maîtrise aussi du budget carbone, là aussi, quelques points à souligner.
Ouais, donc un objectif carbone, de bilan carbone fixé par la Solideo. Mmh. Les chiffres ne parlent pas forcément. On est à 740 kg de CO2 par mètre carré. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 2 fois moins qu'une opération classique, on va dire. Donc au début, cet objectif nous paraissait extrêmement ambitieux. Enfin, il l'est toujours, mais mm-hmm. on n'était pas sûr de pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus serein, puisqu'à 3 mois de la livraison, on sait qu'il est largement atteint. Donc, comment on a fait pour y arriver ? On est passé par un recours massif au bois, mm-hmm. avec tout un tas de bâtiments construits en structure bois, poteaux poutres et plancher bois. Mm-hmm. On a eu recours à du béton bas carbone, avec une production de béton sur site, in situ, avec des centrales à béton bas carbone, des évacuations des déblais par voie fluviale, un certain nombre d'approvisionnements aussi par voie fluviale, et puis un recours au réemploi aussi relativement massif.
Mmh. Alors il y a aussi l'adaptation au climat à l'horizon 2050, parce que dans ce podcast on parle de 2050, ça aussi c'est un point aussi important, oui. On parle de plus en plus de confort d'été aussi, oui. qui est un enjeu majeur.
Ouais, mmh. Tout à fait, alors là on avait un espèce de double objectif, c'est-à-dire que la Solideo s'était projetée en 2050 mmh. et avait fait des simulations météo en 2050, et puis on avait en plus l'objectif que comme on accueillait des athlètes l'été, et qu'il ne fallait pas qu'ils aient trop chaud pour se préparer aux compétitions avec des athlètes américains ou de tous les pays, et on mm-hmm. sait que pour ces pays-là la climatisation est importante, sauf que nous il n'était pas question de mettre de la climatisation, donc du coup des écarts de température à respecter entre l'extérieur et l'intérieur, on doit par exemple 6 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur, et donc ça s'est passé par une conception bioclimatique dès le début, dès le plan masse, le dessin des fenêtres, la proportion de vitrage, le fait d'avoir des balcons, des brise-soleil, tout un tas de stores et d'occultations, et puis on est allé encore plus loin avec la Solideo, puisqu'il y a même un réseau de froid, donc du mmh. rafraîchissement, qui arrive, qui est puisé en géothermie et qui arrive dans les planchers des logements. Et du coup, on a des planchers réversibles qui permettent d'apporter du rafraîchissement l'été, ouais. et du chaud l'hiver. Voilà, donc c'est tout ça qui contribue à faire des bâtiments performants thermiquement.
Exactement. Et alors, il y a un aspect, je parlais de volet social aussi, ça aussi c'est important aussi, finalement, quand mmh. on fait un bâtiment. Il y a la question de l'accessibilité hein, universelle oui. aussi. Oui. Et puis finalement aussi de la mixité qui aussi sera dans les ambitions, on va dire, du village après les
ouais,
JO.
Ouais. Ouais. Alors effectivement, tout ça, volet social très très important. Mmh. Par exemple aussi, on a 10% des heures travaillées qui doivent être faites en insertion. Mmh. Donc 10% c'est beaucoup, en général c'est plutôt 5% sur une opération classique. Donc cette volonté aussi de faire travailler des personnes en réinsertion, des personnes du territoire. L'accessibilité universelle, oui, c'est une thématique extrêmement importante. Et pourquoi ? Parce qu'on accueille des athlètes paralympiques. Mmh. Et que ça, c'était très important pour Paris 2024 de se dire que quel que soit le handicap de l'athlète, il fallait que tous les logements soient accessibles, les espaces publics, les entrées dans les bâtiments et le logement jusqu'à la douche. Donc ça nous a beaucoup animé, ça nous a beaucoup poussé sur ces thématiques d'accessibilité universelle. Et puis oui, vous le disiez, le logement pour tous. Donc mmh. nous, on a une programmation très mixte, on a du bureau, on a du logement. Mmh. Et dans le logement, on a du logement social, on a du logement intermédiaire, on a une résidence étudiante, on a une résidence sociale et on a du logement en accession. Et ça, c'est important de se dire que ces nouveaux quartiers, ils vont vivre parce qu'ils sont mixtes et de ne pas faire des ghettos, que ce soit des ghettos de riches ou des ghettos de pauvres. Ce n'est pas du tout l'idée, c'est vraiment un quartier pour tous.
Et alors, la vie après, vous l'évoquiez, parce qu'il y a cette particularité hein, de rendre les bâtiments réversibles.
Ouais.
Ça, c'est peut-être un sacré travail, enfin, en tout cas de l'extérieur, je l'imagine.
Oui, alors du coup, c'est un double regard sur le projet, puisqu'en fait, il faut imaginer qu'on a des plans pour la phase, ce qu'on appelle la phase JOP, Jeux ouais. Olympiques et Paralympiques, ouais. donc des plans pour accueillir les athlètes pour 2024, et puis des plans pour la phase héritage, qui doivent répondre au cahier des charges des investisseurs, des preneurs, des logements. Donc, on a bénéficié d'un permis double État. Donc ça, c'est unique en France. Ça a été mis en place par un décret Jeux Olympiques qui permet en un seul permis d'avoir les deux autorisations. Donc on a un double jeu de plans. Et donc, quand on modifie quelque chose pour la phase des Jeux, il faut vérifier que ce soit compatible avec la phase héritage et vice-versa. Et encore une fois, c'est vraiment en héritage que le projet a été conçu et qu'ensuite, on a adapté les logements pour accueillir les athlètes.
Alors, ça a été un sacré défi, Paris, hein, ce village des athlètes. Est-ce que justement, ça vous a fait voir autrement votre métier et ça va vous faire évoluer aussi pour l'avenir ?
Alors oui, puisque déjà ça permet de démontrer que c'est possible de sortir des opérations dans un délai aussi court, mmh. parce que finalement ce planning, ce temps, cette date butoir, c'était le plus compliqué, mais finalement pour nous ça a presque été le plus facile, parce que comme cette date elle était intangible, il fallait que tout le monde y arrive, tout le monde avait un objectif commun, et donc que ce soit l'aménageur, les constructeurs, les promoteurs, les investisseurs, on était tous main dans la main, et donc on va y arriver, et donc ça c'est une belle démonstration. Donc oui, ça va faire changer les choses sur des prochains projets, de se dire que c'est possible et que c'est possible de construire bas carbone avec des ambitions extrêmement élevées et que si tout le monde se mobilise, on y arrive.
Exactement. Et c'est ce qu'on montre aussi à travers ces podcasts. Merci beaucoup à vous, Florence Chaïd Nouraï, d'être intervenue, directrice des grands projets Île-de-France au syndicat de promotion, et de nous avoir parlé de ce village des athlètes. Évidemment qu'on va regarder, j'allais dire, encore plus de près dans les mois qui viennent. C'était donc ce podcast, hein, 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone depuis le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Carbone Zéro, la radio. Et à bientôt.
2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio.